Heure de retrouver le rendez-vous d'Haïti et des Amériques avec Anne Verdaguet. Bonjour Anne.
Bonjour Hugo et bonjour à tous. Les feux au Canada, 9000 hectares sont déjà partis en fumée. Dans la province de l'Ontario, une quarantaine de foyers font rage et le vent attise les flammes. Le réchauffement climatique est avancé par les experts comme cause de ces feux. Dans la revue de presse, on va parler de l'Argentine. À une semaine du passage devant le Sénat d'un projet de loi légalisant l'avortement, les opposants au texte étaient dans la rue hier. Et puis Haïti, comme tous les mardis avec Godson Pierre, 3 semaines après la démission du premier ministre haïtien, le chef de l'État tarde à nommer un remplaçant, ce qui fait réagir dans l'opposition. Les incendies donc qui sévissent en ce moment en Amérique du Nord, en Californie, mais également au Canada. 9000 hectares de forêt sont déjà partis en fumée, je vous le disais. Dans la province de l'Ontario, un balai aérien incessant de Canadair et d'hélicoptères tente de circonscrire le feu Paris Sound 33. Le vent étant le principal ennemi des pompiers. L'incendie s'est dangereusement rapproché de la route transcanadienne qui relie Sudbury à Toronto. Une route qui traverse tout le continent et qui pourrait bientôt être fermée. Notre correspondante au Québec, Pascale Guiricola.
C'est au tour de l'Ontario, une province du centre du Canada, à être touchée par les feux de forêt. Une quarantaine de foyers d'incendie font rage dans une région forestière où le temps sec règne depuis plusieurs semaines. Déjà, des centaines de campeurs installés dans un parc naturel ont dû être évacués. Les habitants d'une localité voisine du feu le plus menaçant dans la région de Paris Sound 33 se tiennent prêts à abandonner leur maison après avoir reçu un avis d'évacuation. Il n'est pas rare que les forêts de conifères s'embrasent l'été, car les résineux constituent un combustible de choix lors des orages. Cette année, par contre, les massifs de feuillus ont aussi pris feu en Ontario suite à un printemps et un début d'été très secs. Un signe, selon plusieurs spécialistes, est que les changements climatiques affectent aussi cette région du monde. Pascale Guiricola, Québec, RFI.
Et puis sur le front des incendies en Europe, à noter que la situation s'améliore. En Suède, la France a rapatrié 2 Canadair qu'elle avait envoyés sur place. Bonjour Marie Normand.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Avec le micro, c'est mieux, bonjour.
Bonjour, et vous avez micro.
Aussi pour moi, voilà. Vous avez feuilleté la presse du continent américain pour nous. À la une, en Argentine, le projet de loi légalisant l'avortement. À une semaine du passage devant le Sénat de ce texte, les opposants étaient dans la rue hier.
Oui, avec une poupée géante en forme de fœtus et des foulards bleu ciel. C'est à la une de Clarín, Los Celestes, les bleus ciels, donc, ont manifesté à l'appel de 2 organisations pro-vie devant la Quinta de Olivos, le palais présidentiel à Buenos Aires. On les entend là derrière. Il demande à Mauricio Macri d'utiliser son droit de veto si la loi est validée par le Sénat la semaine prochaine. Un mouvement appuyé par la conférence épiscopale.
Et face aux difficultés pour faire valider cette loi par le Sénat, Marie, une troisième voie se dessine.
Oui, elle s'appelle la voie de Cordoba, nom de la province d'origine des 3 sénateurs qui proposent, poursuit Clarín, d'apporter au moins 5 modifications au texte pour l'assouplir, le rendre plus digeste pour certains réticents. Et s'il y a des retouches, le texte repassera devant les députés qui peuvent soit conserver le texte d'origine, soit accepter les modifications. Les sénateurs font actuellement face à de grosses pressions de la part des lobbies, raconte aussi le journal La Capitale, à l'image du sénateur de Santa Fe qui veut se présenter au poste de gouverneur l'année prochaine. Et voilà le message qu'il a reçu d'une organisation ultra-conservatrice. Aujourd'hui, la décision est entre vos mains. En 2019, elle sera dans les nôtres.
Direction Nicaragua à présent, où les étudiants poursuivent leurs manifestations.
Et ceux de la ville de León sont par exemple à la une de la Prensa. Sur leur bannière est écrit « Nous sommes des étudiants, nous ne sommes pas des délinquants ». Rétablir les faits alors que le président Daniel Ortega poursuit sa tournée des médias internationaux. Après Fox News la semaine dernière, il a accordé un entretien à CNN dans lequel il nie toute responsabilité quant aux paramilitaires très actifs dans la répression du mouvement antigouvernemental. Dans sa première interview internationale, rappelle La Prensa, il disait qu'il s'agissait de groupes financés par les partis d'opposition, assistés par les États-Unis. Et lundi, il a soutenu qu'il s'agissait au contraire de policiers volontaires. Le journal réclame une clarification des faits, des chiffres aussi. Il publie en une les différents bilans de ces manifestations depuis mi-avril. Le président Ortega parle de 195 morts. La Commission interaméricaine des droits de l'homme avance, elle, le chiffre de 295 morts. 448 pour l'ANPDH, l'association nicaraguayenne pour les droits de l'homme.
En Colombie, Marie, la presse fait ses gros titres sur une attaque à la frontière avec le Venezuela. Elle a fait 8 morts et 2 blessés.
Et cela s'est passé dans la ville d'El Tara en plein jour et en plein centre-ville, raconte La Opinion. Le journal évoque des hommes cagoulés, armés jusqu'aux dents, qui se sont introduits dans un bar avant d'ouvrir le feu. Les gens couraient de tous les côtés, beaucoup sont morts, assis à leur table, un verre de bière à la main, d'autres alors qu'ils jouaient au billard. Le tout au moment où le haut commandement de l'armée et de la police de la région était réuni pour un conseil de sécurité dans cette province de Norte de Santander. Parmi les victimes, il y avait une femme et 4 ex-combattants des FARC. Selon La Opinion, l'une des hypothèses est celle d'un règlement de compte entre dissidents de la guérilla de l'ELN et des FARC après la mort de 4 personnes le week-end dernier dans une autre zone. Le quotidien rappelle cependant que l'ELN, en pleine négociation en ce moment avec le gouvernement colombien à La Havane, a nié toute responsabilité dans un communiqué qui a été publié hier soir.
Et on poursuit ce tour de la presse au Venezuela et au Pérou.
Oui, à la une d'El Universal, la menace de l'effondrement du système de transport public à Caracas. Hier, l'un des conseillers municipaux de la ville, du parti d'opposition COPEI, a prédit l'arrêt tout bonnement du métro de Caracas. Selon lui, le réseau est proche de l'arrêt technique. Seuls 13% des escaliers mécaniques fonctionnent encore. Les mauvaises odeurs sont constantes alors qu'il s'agissait avant du métro le plus propre du monde. Les Vénézuéliens qui, vous le savez, continuent de migrer dans les différents pays de la région. Ils sont 368 000 au Pérou, rapporte El Comercio. La moitié ont des diplômes professionnels, des maîtrises, des doctorats dans différentes disciplines. C'est ce que soutient le surintendant chargé de l'immigration au Pérou. Sa conclusion, eh bien, c'est que l'histoire nous a montré que les migrants ont contribué, contribuent et continueront de contribuer au développement de leur pays d'accueil.
Et avant de refermer cette revue de presse, Marie, cette histoire un petit peu folle, mais oui, ça se passe au Canada. Et c'est ce beluga vagabond et fugueur dont vous allez nous parler. Qu'est-ce que c'est qu'un beluga déjà ?
Alors, c'est une variété de baleine blanche qui est en voie de disparition, malheureusement, et qui a élu domicile dans le fleuve Saint-Laurent au Québec. Sauf qu'un spécimen en particulier, un beluga de 3 ans, apprend-on, adore se faire la malle. C'est ce que raconte Le Devoir. L'année dernière, il s'était retrouvé coincé déjà dans une rivière d'une province voisine. Il a passé plusieurs jours en eau douce avant d'être sauvé par une équipe de scientifiques qu'il a rapatrié par avion dans l'estuaire du Saint-Laurent. Belle histoire, sauf Anne, que le beluga est déjà reparti cette fois. Il a été localisé dans le secteur du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, ce qui laisse les scientifiques un peu perplexes. Nous avons fait des efforts considérables pour le ramener, se lamente l'un d'entre eux dans Le Devoir, mais il est déjà reparti. On sait qu'il va bien, mais il n'est vraiment pas à la bonne place. Et cette fois, il a même embarqué un copain avec lui, apprend-on, un autre beluga du Saint-Laurent.
Voilà, une histoire assez fantastique. Merci Marie, à lire donc dans Le Devoir. Merci Marie Normand pour cette revue de presse des Amériques. La diaspora africaine à l'honneur à San Francisco en Californie, qui abrite le musée de la diaspora africaine, le MOAD, à l'initiative de Willie Brown, le premier maire noir de la ville, un lieu qui permet de découvrir l'évolution de cette diaspora à travers les âges et à travers l'art. Une diaspora africaine qui est de plus en plus rare à San Francisco, ville qui connaît une flambée des prix des logements et qui s'établit dans le monde entier. Notre correspondant Eric Sanson a visité pour nous le MOAD.
Le musée de la diaspora africaine occupe les premiers étages d'un hôtel de luxe au cœur du quartier des affaires de San Francisco, le fameux Downtown, hérissé de tours. Sa construction a commencé récemment en 2005, explique son directeur de communication et marketing, Mark Sab.
Au moment de la construction de l'hôtel Saint-Régis, l'idée des propriétaires était de réserver un espace culturel dans les étages inférieurs. Willie Brown, le premier maire noir de San Francisco, a insisté pour que ce soit un musée dédié à la culture afro-américaine qui s'est ensuite étendu à la culture de toute la diaspora.
Un musée à la création d'autant plus urgente que les habitants d'origine africaine sont chaque fois moins nombreux à San Francisco, chassés entre autres raisons par une hausse des prix vertigineuse provoquée par l'arrivée des plus grandes compagnies technologiques du monde.
La population noire de San Francisco est aujourd'hui de moins de 4%, ce qui est vraiment peu pour une grande ville américaine. Cela est dû à de nombreux facteurs, comme la gentrification. Les quartiers sont rénovés, mais deviennent trop chers pour la population d'origine. Il y a aussi des questions économiques et de discrimination. Pourtant, San Francisco a une grande histoire noire. Les Black Panthers ont été créés dans la région de la baie. Il y a eu un grand mouvement de jazz dans certains quartiers. Et la zone de Fillmore était considérée comme le Harlem de l'Ouest. Tout cela courait le risque de se perdre. Et l'idée du musée était de préserver et de faire connaître cet héritage.
Linda Harrison est la directrice générale du musée. Sur les réseaux sociaux du MOAD, elle explique d'abord ce que signifie le terme de diaspora africaine.
La diaspora est la migration de la population de sa terre natale. Cette migration provoque un processus d'adaptation, puis de transformation. Notre but est de montrer ce processus d'évolution de la diaspora africaine à travers l'art.
La diaspora, ce n'est donc pas la population africaine vivant en dehors de l'Afrique, sinon ces hommes et femmes d'origine africaine, mais de toute nationalité, que l'on trouve partout. 29 millions aux Caraïbes, 112 millions en Amérique du Sud, 43 millions aux États-Unis et au Canada, 8 millions en Europe et plusieurs centaines de milliers en Asie et en Océanie. Ces communautés partagent des racines communes, mais leurs apports culturels sont différents, ainsi que leurs besoins. Marc Sab.
Nous avons réalisé que les artistes de la diaspora noire, et nous incluons là les artistes africains, les artistes noirs de toute la zone des Caraïbes et bien sûr tous les artistes d'ascendance africaine qui vivent aux États-Unis, ont tous le même problème. Ils ont besoin d'espace pour exposer. Et le MOAD a compris ce besoin.
Mettre les artistes différents sur les murs, c'est l'objectif du MOAD. Un objectif parfois plus complexe qu'il n'en a l'air.
Les gens sont normalement larges d'esprit à San Francisco, mais dans le domaine artistique, il y a beaucoup d'idées reçues vis-à-vis des artistes de la communauté noire. Les gens regardent ces communautés artistiques, mais ne réalisent pas toujours la force, l'étendue et la variété de leurs propositions, qui n'ont rien à envier à celles d'autres communautés. C'est comme dans le sport, où les Noirs sont censés être bons au football américain ou au basket. Beaucoup ont tendance à penser qu'un artiste noir est un rappeur.
L'objectif est de faire comprendre que la culture africaine est un peu la culture de tous. Le MOAD développe donc toutes sortes de programmes.
Nous organisons deux événements différents par semaine. Ils peuvent être basés sur l'histoire, ce sont parfois des spectacles de danse ou de musique, mais nous organisons aussi des choses différentes. Nous avons un programme de cuisine, par exemple, avec un chef en résidence. Le chef actuel s'appelle Brian Terry et il organise pour le public des cours de cuisine afro-vegan.
Même si l'offre culturelle ne manque pas à San Francisco, le MOAD est un bon endroit pour réaliser que nous sommes tous ou serons tous membres d'une diaspora à un moment ou à un autre. Eric Sanson, San Francisco, RFI.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Les informations haïtiennes à présent avec Godson Pierre du Nouvelliste. Godson, trois semaines après la démission du Premier ministre suite aux émeutes, le choix d'un remplaçant se fait attendre en Haïti.
Après trois semaines de consultations auprès de plusieurs secteurs, le président Jovenel Moïse n'arrive pas encore à désigner un Premier ministre susceptible de répondre aux attentes de la population dont la colère a été d'une rare violence les 6, 7 et 8 juillet derniers, particulièrement à Port-au-Prince. Les communicants de la présidence tentent d'assurer que le nom du nouveau Premier ministre sera connu sous peu, mais Jovenel Moïse ne semble pas pressé malgré la ronde des noms de premiers ministrables sur les réseaux sociaux. Comment trouver la bonne mesure et mettre la main sur l'épaule de celui ou celle qui saura prononcer le mot espéré par chacun, chacune dans une société écartelée? Le choix du Premier ministre représente un exercice périlleux pour Jovenel Moïse qui n'a nullement droit à l'erreur, lui qui a vu sa politique des 17 derniers mois sévèrement sanctionnée dans le sang, le feu et les casses. Les récentes émeutes survenues suite à une tentative d'augmentation des prix des produits pétroliers ont non seulement provoqué la démission le 14 juillet du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, mais aussi occasionné la mort de 20 personnes, des attaques contre 84 entreprises et l'incendie de 76 véhicules. Jovenel Moïse jouerait la prudence à moins d'avoir un as de trèfle ou de pique bien au fond de sa poche arrière, comme on dit ici. Sinon, il hésiterait, selon certaines sources, entre un profil de chef de gouvernement et un dialogue national, tant réclamé par plusieurs secteurs, alors que les États généraux qu'il avait lancés il y a quelques mois n'ont jamais pu décoller. Compétences, crédibilité et capacité d'écoute sont mises en avant dans cette conjoncture où les acteurs politiques et les pouvoirs d'État sont dos au mur, le secteur économique en partie décrié, les acteurs sociaux affaiblis et limités, les besoins astronomiques. Voilà qui fait dire à un ancien député que le calme et l'attente observée à travers le pays ressemblent à un café de grand-mère brûlant et pourtant non fumant. Dans une lettre.
Et sur le choix du Premier ministre, Godson, le président de la Chambre des députés tire la sonnette d'alarme.
Dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État, Garibaudeau estime que tout retard dans la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale ne peut se solder que par un approfondissement des frustrations et l'exacerbation des acrimonies sociales et politiques dangereuses pour la stabilité. La communauté nationale tout entière languit depuis 3 semaines dans l'expectative anxieuse du dénouement de cette crise qui n'a que trop duré selon le député. 3 semaines, c'est déjà trop. L'attente a atteint les limites de la patience, se plaint le président de la Chambre des députés qui appelle le chef de l'État à se décider.
Et de son côté, une frange de l'opposition haïtienne se met en ordre de mobilisation.
Des organisations politiques, syndicales et populaires ont appelé à une grève partiellement suivie hier, mais elles annoncent la publication prochaine d'un calendrier d'activités de mobilisation. Elles ne manifestent aucun intérêt pour le choix d'un nouveau Premier ministre qui, déclare-t-elle, n'aura qu'à appliquer les recettes des institutions internationales. Elles souhaiteraient contraindre Jovenel Moïse à la démission et faire table rase. Mais une telle option ne fait pas l'unanimité en dépit des multiples reproches et récriminations à l'encontre de l'administration en place.
Merci beaucoup Godson Pierre pour ces nouvelles d'Haïti. Godson Pierre du Nouvelliste.
Le journal de l'Outre-mer.
Et les nouvelles ultramarines avec Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
10 mois après le passage de l'ouragan Irma, l'île de Saint-Martin a totalement revu son dispositif d'accueil des populations sinistrées.
Oui, instruite, hélas, évidemment, par l'expérience, et alors que la saison cyclonique 2018 est déjà bien entamée dans la mer des Caraïbes, la collectivité de l'île du Nord de la Guadeloupe a plus que triplé sa capacité d'accueil. Peggy Robert.
À Saint-Martin, 10 mois après Irma, de nombreuses familles ne vivent toujours pas sous un toit protecteur. Selon la collectivité de Saint-Martin, 11 000 personnes résident aujourd'hui dans une zone identifiée comme inondable. La capacité d'accueil des abris cycloniques devait donc impérativement être revue à la hausse. Elle passe de 500 à 1 700 places, des places réparties dans 9 abris disséminés sur tout le territoire. Hormis le bâtiment qui appartient à l'ASMT, l'association Saint-Martinoise de tir à Saint-Marcel, les 8 autres bâtiments appartiennent à la collectivité. Il y a 6 écoles, la cité scolaire et l'ancienne gendarmerie de Concordia. Un diagnostic de ces 8 abris a été réalisé avec la collaboration d'ingénieurs et d'architectes qui ont recommandé d'y renforcer la sécurité. Tous ces bâtiments disposent de charpentes en béton et toutes les ouvertures vitrées seront bouchées. Ces abris disposent de groupes électrogènes, ce qui permettra qu'ils soient éclairés et que l'eau de leur citerne puisse être pompée jusqu'au robinet. Des lits de camps pliants seront disponibles pour les personnes les plus fragiles et les abris disposeront d'eau, de denrées de subsistance comme des biscuits et des bananes, d'une radio, de lampes torches et d'une trousse de premiers secours.
Retour en Guadeloupe proprement dite maintenant avec le préfet de la Guadeloupe qui préfère réparer en urgence les canalisations d'eau. Pour le reste, reconstruire, eh bien, on verra plus tard. Philippe Gustin est au micro d'Olivier Lancien.
C'est pas que c'est pas prioritaire, il faut tout faire, mais aujourd'hui, ce qui est important, je l'ai dit la semaine dernière, c'est de restaurer la confiance. Cette confiance, elle passe d'abord par la nécessité de combattre les fuites. Hein. Et donc, c'est pourquoi, sur les différents sujets qu'on a retenus dès cette année, hein, que ce soit à Gourbert, que ce soit à Capesterre-Belle, ou l'année prochaine, que ce soit aussi à Capesterre-Belle ou à Petit-Bourg, la première des priorité, c'est quand même bel et bien ce colmatage de fuites et cette consolidation du réseau pour pouvoir restaurer cette confiance, faire en sorte que les gens aient de l'eau et puis derrière payent aussi cette facture d'eau à partir du moment où ils l'auront.
Bon après-midi, Anne. À demain.
Merci Benoît, bon après-midi à vous également. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain. En attendant, n'oubliez pas notre page internet www.rfi.fr et notre page Facebook Journal d'Haïti et des Amériques. Très bonne journée à tous.